Inter, le 18-20.
Avec un téléphone sonne politique ce soir, quelques éléments du contexte. Le remaniement devait être purement technique dans la foulée des législatives. Il a changé de nature et d'ampleur avec l'exfiltration de Richard Ferrand, suivie par la démission de tous les ministres Modem, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez et François Bayrou. C'est la première secousse du quinquennat, d'autant plus forte que la moralisation de la vie publique a été placée au fondement de l'action gouvernementale. Alors intervenez, amis auditeurs, sur le remaniement, on a la liste, ça y est, du nouveau gouvernement. Sur les équilibres politiques, sur la transparence, vous avez la parole jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Avec moi, au micro de France Inter, Gaël Slimane, bonjour.
Bonjour.
Président cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa, Françoise Fressoz, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste éditorialiste au Monde, Frédéric Mettezo, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Chef du service politique d'Inter, Cyril Graziani, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au service politique de France Inter. Quelques mots peut-être pour commencer, Frédéric Mettezo, de ce nouveau gouvernement. On en a entendu la composition en direct sur Inter.
Oui, on va citer tout de suite les nouvelles venues, la garde des Sceaux, celle qui succède à François Bayrou, s'appelle Nicole Belloubet. C'est une juriste, elle est spécialiste donc des questions juridiques. Elle est membre du Conseil constitutionnel, était première adjointe au maire de Toulouse, adjointe au maire de Pierre Cohen. Donc elle est à la fois société civile, dirons-nous, parce qu'elle a un gros bagage et un long passé universitaire, mais aussi elle a été élue à Toulouse et en Midi-Pyrénées. Nous avons également à la Défense, cette fois-ci, Florence Parly. Alors elle était secrétaire d'État au budget à la fin du gouvernement Jospin, à l'époque de Laurent Fabius. Elle devient donc ministre de la Défense et elle aura à ses côtés une secrétaire d'État Modem qui l'aidera à la Défense, Geneviève Darrieussecq. Elle est maire de Mont-de-Marsan qui accueille une base aérienne, l'une des plus importante base aérienne. Ça a longtemps été une ville de garnison, Mont-de-Marsan dans les Landes. Elle a été élue députée Modem le week-end dernier. On peut également citer la promotion de Jacques Mézard, qui succède à Richard Ferrand comme ministre de la cohésion des territoires. Alors lui, il était ministre de l'Agriculture depuis un mois. Il est sénateur du Cantal et donc on l'imagine très attaché au maintien des services publics, au développement des territoires ruraux. Il est remplacé à l'agriculture par Stéphane Travert. Lui, c'est un ancien député PS de la Manche qui a très vite rallié En Marche et qui a donc été élu comme député En Marche. Citons également ministre des Affaires européennes pour succéder à Marielle de Sarnez, Nathalie Loiseau. C'est l'actuelle directrice de l'ENA qui, si je ne m'abuse, a été diplomate précédemment avant de diriger l'ENA. On peut encore citer parmi les nouveaux arrivés
Jacqueline Gourault.
Jacqueline Gourault, merci Cyril Graziani. Elle est vice-présidente du Modem. C'est une très proche de François Bayrou. Elle est sénatrice du Loir-et-Cher. En revanche, je ne retrouve plus, Cyril, son portefeuille.
Son portefeuille, je ne l'ai pas.
Alors attendez, moi j'essaye de le retrouver aussi sur l'écran des dépêches.
Elle est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur.
Ce que l'on peut dire, c'est qu'en termes d'équilibre politique, on peut constater qu'il y a l'entrée de ministre Modem, puisque vous citiez donc Jacqueline Gourault. Et puis il y a aussi l'entrée d'ex-élu LR, on peut dire, puisque vous avez par exemple Sébastien Lecornu.
Il est élu dans l'heure.
Vous avez également Jean-Baptiste Lemoyne, c'est un sénateur ex-LR qui a rejoint En Marche durant la campagne de la présidentielle. Et puis à noter également, on parlait de Stéphane Travert, il y a deux secrétaires d'État qui ont été nommés, Julien de Normandie et Benjamin Griveaux à Bercy. Ces trois personnes sont trois proches, mais très très proches d'Emmanuel Macron, notamment Benjamin Griveaux, qui a été secrétaire général du mouvement En Marche et qui l'a nommé à Bercy. Et on peut se demander s'il n'a pas été nommé à Bercy pour surveiller les deux ministres précédemment nommés dans le gouvernement que sont Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. On se demande si le ministre Griveaux n'est pas les yeux et les oreilles du président de la République
de
à l'économie.
Oui, je ne voulais pas le dire. Françoise Fressoz, un mot de commentaire sur cette nouvelle équipe gouvernementale.
Ce qui frappe, c'est que c'est vraiment un gouvernement fait à la main d'Emmanuel Macron. La première version, vous aviez l'alliance avec le Modem, donc des personnalités fortes du Modem qui ont disparu. Il respecte parfaitement les équilibres politiques, c'est-à-dire qu'il est allé chercher à la fois à gauche, à la fois à droite, à la fois dans la société civile. Il a respecté hommes, femmes, parité, mais en même temps, c'est vraiment le gouvernement à sa main.
Et on se demande peut-être qu'il dépasse.
En tout cas, des jeunes qui lui doivent beaucoup. Et on se demandait si le Premier ministre allait trouver une autonomie, c'est-à-dire allait avoir quelques alliés au sein de la place. Il en a, mais au niveau des secrétaires d'État. Et donc, c'est vraiment l'hyper-président dans toute sa splendeur.
Gaëlle Slimane.
Oui, c'est Jupiter.
Jupiter, d'accord. C'est, gouvernement Jupiter 2.
C'est un gouvernement jupitérien. Et quand même, le poids lourd que représentait François Bayrou, à tous les sens du terme d'ailleurs, pour Emmanuel Macron, dans son précédent gouvernement, le fait d'en être débarrassé, si j'ose dire, est quand même pour lui, en termes d'opinion aujourd'hui, et en termes de confort pour agir, plutôt une bonne nouvelle. Et d'une certaine manière, il peut peut-être se féliciter, Emmanuel Macron, de ce qui aura précipité la chute de François Bayrou, qu'on a entendu tout à l'heure, expliquer, en rendant hommage au président de la République, en expliquant qu'il n'était pas débarqué, et bien qu'il était bien obligé de s'en aller pour pouvoir porter cette loi de moralisation de la vie politique. Donc, c'est effectivement une situation, je ne sais pas si on, dans une configuration pareille, on a déjà vu un président en posture aussi favorable au moment de démarrer un quinquennat, sur tous les grands fondamentaux, mais puisque je parle en tant que sondeur, en termes d'opinion, il ne faut pas se tromper. Emmanuel Macron, en matière d'opinion publique, bénéficie d'une certaine cote auprès des Français, mais rien d'extraordinaire. On est loin d'avoir la traduction dans l'opinion des deux tiers des députés qu'il a à l'Assemblée, des deux tiers des voix qu'il a recueillies au second tour de la présidentielle, d'un gouvernement qui est totalement à sa main, comme le disait François Fressoz, effectivement. Donc il y a quand même un hiatus entre les mains libres qu'il a aujourd'hui politiquement et le soutien qu'il recueille dans l'opinion qui est bien moins solide que cela.
Un mot Frédéric et puis on part au standard.
Oui, alors il y a un point avec vous Gaëlle avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est vous parlez d'un contexte, ça nous arrive, favorable au président.
Je vois ça d'un bon œil.
Le président de la République a quand même dû se séparer de son ministre de la Défense, de sa ministre des Affaires Européennes, de son garde des Sceaux, de son ministre chargé de la cohésion des territoires, c'est-à-dire celui qui doit réduire la fracture sociale toujours béante depuis 95. Il a tout de même des seconds choix, des deuxièmes choix chronologiques, pas forcément de qualité, mais sur deux ministères régaliens. Il a conservé certains poids lourds que sont Gérard Collomb, Nicolas Hulot ou Bruno Le Maire, mais tout de même, quand il faut changer quatre ministres importants sans l'avoir choisi, c'est quand même une fragilité politique.
Gaëlle Slimane, un mot, Cyril.
Je ne serais pas d'accord avec moi-même, du coup, puisque je pense que pour Emmanuel Macron, il a les mains libres comme aucun président ne les a eues, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Frédéric. C'est aussi pour ça qu'en termes d'opinion, il est plus fragile qu'il n'y paraît, parce qu'il est tout seul. Il est en première ligne, à part peut-être Bruno Le Maire, qui est à peu près connu des Français. Même le premier de ses ministres, Gérard Collomb, n'est pas connu du grand public. Donc il est vraiment
Il y a Nicolas Hulot, qui est la star.
Voilà, il y a Nicolas Hulot, qui est la star. Et sinon, il est complètement seul, donc il ne faut pas se louper.
Cyril, un mot, et puis Joël nous attend au standard.
Juste un petit mot pour noter qu'en termes de parité, vous avez 14 hommes, 14 femmes, et notamment au niveau des ministères régaliens, je crois que c'est assez rare pour être souligné, vous avez deux hommes et deux femmes.
Joël, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Soyez la bienvenue.
Merci beaucoup. Je vous complimente d'ailleurs pour votre émission.
C'est gentil, merci.
Voilà, vous êtes vraiment extraordinaire. France Inter, je décroche pas. Bon, ce remaniement, moi, je l'ai vécu pas comme une crise, mais comme quelque chose de très simple. Dès qu'il y a le moindre doute, il ne faut pas hésiter. Et notre président et notre premier ministre n'ont pas hésité. Je viens d'entendre la nouvelle composition. La parité est respectée. Et pour moi, il n'y a pas de fragilité.
C'était ce qu'il fallait faire, Joël, au bon moment. Le problème a été traité tout de suite.
Exactement. Voilà. Dès le début de son quinquennat. Voilà.
Merci Joël pour votre intervention qui entre en contradiction absolue avec la une du Monde cet après-midi, Françoise Fressoz. Et je suis assez d'accord avec Joël, pour ne rien vous cacher, le Monde mettait à la une l'idée de crise, c'est la première crise du quinquennat Macron. Joël dit au fond, bon non c'est ça, c'est un mouvement sain, problème traité, hop on passe à autre chose.
Moi je dirais que Françoise. Emmanuel Macron a quand même beaucoup de chance. Il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fixé comme règle, un ministre mis en examen doit partir. Et je ne céderai pas pression de la presse, c'est hors de question. On s'est rendu compte que c'était absolument intenable et qu'à partir du moment où il y avait une enquête judiciaire ouverte, les ministres devaient partir parce que sinon le calendrier judiciaire prédominait par rapport à ce que voulait Emmanuel Macron. Hier, vous entendiez le Premier ministre qui disait c'est pas du tout un problème que Bayrou reste au gouvernement. Donc autrement dit, s'il n'y avait pas eu Sylvie Goulard qui avait décidé au nom de l'exemplarité en vigueur dans les autres pays européens de démissionner pour pouvoir se défendre, je ne pense pas qu'on aurait eu le scénario optimum d'aujourd'hui, à savoir un François Bayrou qui s'en va et qui part avec le sourire en disant « je reste dans la majorité ». Donc c'est juste le bémol que j'apporterai. Je pense que Emmanuel Macron est mieux sans le MoDem au gouvernement, mais il n'a pas été, c'est pas lui qui a pris l'initiative de dire « maintenant on arrête les frais et vous sortez ».
Mais est-ce qu'il y a une crise pour autant ?
Il y a une crise dans la mesure où quand vous êtes obligé de vous séparer de quatre ministres importants d'entrée de jeu, ça veut dire que vous êtes planté au départ, ou que vous avez mal évalué les risques, vous avez mal évalué le risque des affaires qui était quand même qui était connu, et en fait vous payez votre dû. Alors peut-être qu'il s'est dit après tout c'est un gouvernement pour faire une campagne législative et je changerai après. Ça s'est toujours produit hein, qu'on change assez fortement le deuxième gouvernement, mais il y a quand même une appréciation peut-être un peu trop optimiste au départ sur la capacité à pouvoir rester comme ça.
Gaël Slimane,
je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Françoise. Effectivement,
moi je défends Joël dans ce débat. Alors, je suis désolé Joël de Montpellier, je défends Joël.
Nicolas,
mais vous avez la parole,
on peut faire du en même temps, justement.
Oui, si
et, je pense que là, c'est assez approprié. C'est-à-dire que incontestablement, c'est une crise. Incontestablement, un président qui est obligé de se séparer de ministres majeurs, sachant qu'en plus, il a sauté à pieds joints sur la peau de banane, effectivement, parce que le risque existait. Donc, c'est une crise, c'est un problème. Mais en même temps, on peut rejoindre ce que dit Joël, parce que des problèmes, tous les gouvernements en connaissent. Et là, c'est vrai qu'il est traité à temps. Et là où je suis vraiment complètement d'accord avec ce que dit Françoise Fressoz, c'est qu'il est traité au bon moment, un peu parce que le contexte aide Emmanuel Macron. Et effectivement, le contexte, c'est d'une part les législatives qui lui permettent d'avoir l'excuse de dire « je ne vire pas Bayrou, je ne le pousse pas dehors, mais bon, on fait un remaniement et François Bayrou a annoncé lui-même qu'il sortait. » Et puis, il y a le cas de Sylvie Goulard. Sylvie Goulard, je pense, à obliger François Bayrou à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise sinon, et qui est une très bonne décision en termes d'opinion pour Emmanuel Macron.
Mais contrairement à ce que disait François Bayrou tout à l'heure dans sa conférence de presse, où il annonçait qu'il y a 15 jours, au moment de l'ouverture de l'enquête préliminaire, il avait proposé de démissionner à Emmanuel Macron.
On n'est pas obligé de le croire. On retourne au standard. Manu, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors tout d'abord, merci pour votre émission.
Merci à vous.
Ça fait des années que je vous écoute et
c'est
super intéressant. Donc moi, eh bien en fait, je suis assez mécontent de ce nouveau gouvernement, dans le sens où je pensais au départ que nous allions retrouver un gouvernement resserré un petit peu comme en Allemagne, avec très peu de ministres. Là, on se retrouve avec beaucoup de ministres, des ministres de ministres et beaucoup de secrétaires d'État. C'est aussi un gouvernement de remerciement. On remercie un petit peu les copains qui nous ont suivis depuis le départ. Et l'abandon du MoDem, même s'il y avait quelques couacs, tout ça fait que ça renforce mon idée de départ où M. Macron a les pleins pouvoirs partout. Les pleins pouvoirs au gouvernement, les pleins pouvoirs à la Chambre des députés, tout en ayant eu finalement au premier tour de la présidentielle, au premier tour des députés, des élections des députés, très peu de pourcentage. Voilà.
Merci Manu pour cette analyse, beaucoup plus aiguisée du gouvernement. Lourd, nous dit Manu, beaucoup de monde, pas du tout simplifié, absolument pas à l'allemande, qui veut dire un mot sur le sujet.
Qui penche plutôt à droite.
Cyril Graziani, qui penche plutôt à droite, effectivement. Quelqu'un veut dire ajouter un mot ? Pourquoi autant de ministres ?
Alors, sur le autant, c'était une promesse, effectivement, de faire court, et c'est pas si court que ça quand on a une 29, trentaine de ministres. Bon, donc, de fait, Manu a raison sur cet aspect-là. Ensuite, dans sa déception, que nous disait-il ? Il y avait un autre point qu'il soulevait.
Beaucoup de secrétaires d'État, de ministres, disait-il.
Oui, alors c'est le problème des équilibres qu'a voulu Emmanuel Macron. Quand on se félicite, ou quand on pointe, comme vous l'avez fait, la parité, l'équilibre, un relatif équilibre gauche-droite, même si ça penche plus à droite quand même, la présence encore de ministres du MoDem, des experts, puisque ça, c'est quand même un point fort, une promesse, en tout cas, que portait Emmanuel Macron, de mettre des experts sur les ministères. On a une experte de la santé à la santé, on a des experts à peu près dans chacun des domaines. Le risque, c'est d'arriver à un gouvernement pléthorique. Et dans ce que dit Manu aussi, il y a l'aspect un gouvernement complètement à la main d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Frédéric Mettezo. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de fusible. Le Premier ministre n'était pas connu des Français avant d'être nommé. Et les principaux ministres de ce gouvernement sont d'illustres inconnus pour les Français, à l'exception de Bruno Le Maire. Donc ça, c'est une fragilité. Ça.
Alors Françoise Fressoz, puis Frédéric Mettezo et enfin Cyril Graziani.
C'est le paradoxe d'ailleurs, hein, parce que Emmanuel Macron avait théorisé le fait qu'il voulait revenir à un fonctionnement plus classique de la Ve République, avec un Premier ministre mieux mis en avant, mieux mis en valeur. Et en fait, on s'aperçoit que le Premier ministre, jusqu'à présent, il est traité comme un collaborateur. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence propre, il n'a pas de troupe parlementaire. Et c'est peut-être ce qui est intéressant dans le cas Macron, c'est que Macron, il a tous les pouvoirs, y compris le contrôle de la majorité parlementaire, qui dépend directement de lui, puisque sur les affiches des législatives, c'est Macron qu'on a élu, et pas du tout les députés de En Marche. Donc là-dessus, il y a effectivement une interrogation, c'est qu'est-ce qu'il va faire de ses pleins pouvoirs, et est-ce qu'il arrive à nouer avec l'opinion l'équivalent de ce qu'il a à l'Assemblée nationale.
C'est nouveau, c'est plein pouvoir, Françoise.
J'ai pas de souvenir d'avoir quelque chose d'aussi important et surtout dépendant d'un homme comme ça.
Nicolas Sarkozy, 2007, c'était différent?
Non, c'était différent. Il n'avait pas une majorité d'une telle ampleur et surtout, il y avait quand même l'héritage de la droite. Il n'avait pas cassé le système politique. Il y a peut-être l'équivalent de De Gaulle, mais De Gaulle, c'était 58, c'était la guerre. C'était compliqué pour lui. Le retour était plus compliqué, en tout cas plus tendu, parce que la France était en guerre.
Donc,
je pense que pour cette ampleur-là, c'est inédit, oui.
Frédéric Mettezo.
Il y a un autre paradoxe que je voudrais souligner et répondre encore à Manu, notre auditeur qui, j'espère, est toujours à l'écoute, qui s'interrogeait sur ses ministres ses secrétaires d'État de ministres. On a une majorité, donc c'est ça le paradoxe, on a une majorité énorme avec un seul groupe. Le groupe En Marche, c'est l'un des plus gros de l'histoire de la Ve République. Il est tout seul, il a la majorité tout seul. Et pour autant, Emmanuel Macron prend des ministres du Modem, qui feront aussi partie de la majorité, des ministres qu'on dit constructifs, puisque Sébastien Lecornu, qui est un proche de Bruno Le Maire, vient de la droite, et Jean-Baptiste Lemoyne était un sénateur de droite, passé à La République En Marche. Donc finalement, on a à la fois la majorité la plus énorme qui soit, et aussi peut-être la majorité qui compte le plus d'éléments divers en son sein.
Cyril Graziani.
Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Gaël Silman tout à l'heure sur les experts, ce qu'il faut noter, on l'avait déjà noté lors de la nomination du premier gouvernement, c'est que, et là ça se vérifie, vous avez donc Nicole Belloubet et Florence Parly qui sont deux expertes. Et ce qui est assez frappant quand on regarde l'organigramme, c'est qu'on donne aux femmes l'expertise et on a l'impression qu'on donne aux hommes le politique. Et je trouve que c'est assez troublant.
Mounir.
Oui.
Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème de communication. Vous m'entendez ?
Parfaitement bien.
Oui, je voulais réagir tout à l'heure au propos de Madame Fressoz qui disait qu'en fait, l'élément déclencheur de cette réaction en chaîne, c'était la décision de Madame Goulard de démissionner. Or, moi, je ne partage pas cet avis. Je pense beaucoup plus que c'est en fait la décision initiale du président de la République de se débarrasser le premier, débarrasser entre guillemets, bien évidemment, de son plus proche collaborateur, en l'occurrence Ferrand, d'une certaine manière, a mis une pression terrible sur les gens du Modem en disant « Voilà, monsieur, moi je prends ma responsabilité, je me sépare de mon plus proche collaborateur, ma véritable cheville ouvrière, prenez à vous de prendre les vôtres. » C'est un peu plus dans ce sens-là que je le voyais, moi.
Le premier geste, donc, de dégagisme est macronien, d'après vous?
Ah, pour moi, oui.
Merci Mounir, nous donnons la parole à Françoise Fressoz dont l'analyse
la
a été vigoureusement contestée.
Alors deux choses, s'agissant de Ferrand, c'était quelqu'un qui venait de En Marche, hein. Donc c'était plus facile pour le président de la République de dire à quelqu'un de En Marche, il faut aller ailleurs. Et puis, depuis le début, on savait que Ferrand avait plutôt envie d'aller à l'Assemblée nationale, alors il se voyait patron de l'Assemblée nationale. Et puis finalement, il sera peut-être président du groupe, donc c'était avant même qu'il y ait eu l'affaire Ferrand, c'était presque acquis qu'il ne resterait pas au gouvernement. Je pense que Emmanuel Macron, ce qui était compliqué avec le MoDem, c'était qu'il exige lui-même publiquement, parce qu'à ce moment-là, François Bayrou aurait pu dire « Mais attendez, vous avez fixé une règle qui était la mise en examen, je ne suis pas mis en examen. » Et d'ailleurs, quand vous entendez Bayrou qui fait sa conférence de presse, il estime n'avoir absolument rien à se reprocher. Donc on aurait pu avoir un malaise de ce type-là, c'est-à-dire un président de la République qui veut se débarrasser de François Bayrou et qui n'y arrive pas à le déloger parce qu'il n'a pas les moyens, les arguments irréfutables. Donc en ce sens, je pense que Goulard lui a énormément simplifié la vie.
Goulard est parti, enfin le communiqué qu'elle a publié, qui était un communiqué tout à fait étonnant, très clair, assez exceptionnel hein, dans la vie politique française, même si on pourrait se dire que c'est normal. Elle est partie vraiment comme ça, de son plein gré. Il n'y a pas de coulisses à cette démission.
C'est ce qui se murmure apparemment Cyril depuis Graziani. À peu près 15 jours, depuis l'ouverture de l'enquête préliminaire. Sylvie Goulard tannait le président de la République et le Premier ministre pour dire que cette situation n'était plus tenable. Donc elle-même voulait quitter le gouvernement, mais on a l'impression que l'exécutif ne voulait pas se débarrasser, ne voulait pas en tout cas la laisser partir, parce que c'est une tête d'affiche, Sylvie Goulard, c'est une vraie spécialiste des questions européennes, elle était à la Défense, certes, mais en tout cas c'était quelqu'un sur laquelle Emmanuel Macron comptait énormément.
Gaël Sliman.
La grosse difficulté, pour rebondir sur ce que disait l'auditeur sur le cas Ferrand, c'est que c'était un vrai problème. On a fait un certain nombre de sondages pour France Inter et France Info sur la question Ferrand. Au moment même où Emmanuel Macron bénéficie d'un certain socle de popularité dans l'opinion, ce qui est normal puisqu'il vient d'arriver, au moment même où il gagne les législatives, les Français nous disent qu'ils sont choqués que François Ferrand reste au gouvernement. Et Emmanuel Macron... que Richard Ferrand reste au gouvernement. Et Emmanuel Macron ne prend pas la décision fatidique. Il n'appuie pas sur le bouton. Il ne se débarrasse pas de quelqu'un qui est pourtant au sein même de son mouvement et qui ne lui apporte plus rien d'un point de vue politique. Il ne prend pas cette décision-là. Donc, moi, je rejoins ce que disait François Fressoz. C'est vraiment important ce qu'a fait Sylvie Goulard, parce que si elle n'avait pas pris, elle, cette décision-là, et si elle ne l'avait pas dit aussi clairement, eh bien, nous aurions sans doute encore aujourd'hui François Bayrou comme garde des Sceaux, avec cette loi de moralisation de la vie politique qui serait bien mal en point.
Direction Nantes. Philippe, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir toute l'équipe. Merci encore pour vos émissions.
Merci à vous.
Moi, je serais plutôt d'accord avec Nicolas et Joël. Du coup, pour revenir...
Je me sens moins seul, Philippe. J'avoue que j'avais un petit sentiment de solitude face à l'axe Fressoz-Slimane, très puissant dans ce studio. Vous avez la parole.
Bon. Alors un tout petit soutien. Non, mais je trouve que voilà. Enfin, Emmanuel Macron n'a même pas besoin en fait de dégager les joueurs de son équipe de France, puisque en fait ils se dégagent d'eux-mêmes. Et en fait, il m'apparaît, si on veut filer en fait la métaphore sportive là, comme un entraîneur parfait, c'est-à-dire que en fait il a choisi encore une fois les experts, les meilleurs pour pouvoir composer son gouvernement, y compris les personnes qui vont pouvoir aller après le représenter à l'Assemblée nationale. Et quand il y a un problème, ce sont les personnes elles-mêmes qui lèvent le doigt un peu comme si on était dans un match de foot en disant eh ben là, je peux plus jouer parce que j'ai mal ci, j'ai mal ça, j'ai fait ceci. Mmh. Et du coup, ça le dégage complètement en fait de toute responsabilité par rapport à des malfonctionnements, des dysfonctionnements, de tout ce qu'on veut, on peut l'appeler ça comme ça. Et donc pour moi, il n'y a pas crise au sens où Joël le disait tout à l'heure. Par rapport à ça, c'est-à-dire aussi par rapport au fait que cette idée où les politiques, où cette équipe Macron serait en train de composer cette meilleure équipe pour la France, ça me pose un problème fondamental, c'est-à-dire que la France peut-elle être gouvernée par une équipe d'experts, appelons ça comme on veut, des experts, les meilleurs en leur domaine, etc. Et autrement dit, dégager de toute idéologie politique, c'est-à-dire qu'ils arrivent à nous faire penser, croire, réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, la politique, il faut la confier non pas à des politiques, mais à des techniciens, et donc du coup, on la dépasse, on l'enlève de toutes les passions, etc., etc.
Oui, vous l'avez dit, hein, c'est Philippe, c'est une dépolitisation au nom d'une technocratie, où le fameux gouvernement des experts dégagé de ces considérations minables que sont les choses politiques, c'est les gens bien intelligents qui vont prendre le pouvoir. Restez avec nous, Philippe. Qui veut répondre là-dessus? Oui, Frédéric Mettezo.
Oui, alors, est-ce qu'il y a dépolitisation ou est-ce qu'il y a plutôt désidéologisation? Je m'explique. Il y a quand même un certain nombre de personnes de ce gouvernement qui sont passées sous les fourches caudines du suffrage universel la semaine dernière, qui ont été élus députés. Pendant que nous écoutions nos auditeurs, je regardais un petit peu, grâce à francebleu.fr, par exemple, les biographies des personnes un petit peu moins connues. Brune Poirson, qui est secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, c'est celle qui a battu le candidat du Front National dans la circonscription de Marion Maréchal-Le Pen dans le Vaucluse. C'est quelqu'un qui a fait de la politique. Alors, peut-être pas au sens où notre auditeur l'entend, parce que c'est vrai que les candidats En Marche, on a parfois du mal à identifier leur idéologie, mais il y a des élus. Sébastien Lecornu, il est élu local dans l'Eure.
Président du conseil départemental.
Président du conseil départemental, ça c'est quand même quelqu'un qui fait de la politique au quotidien.
C'est la politique de l'au-delà de la politique et de la neutralisation des différences et des clivages.
C'est la politique sans idéologie claire. Oui.
Françoise Fressoz.
Non, mais moi je pense que c'est... Alors c'est vrai qu'il y a des experts, hein, c'est vrai qu'il y a de la société civile. Je pense que ça répond à deux choses. D'abord, on est en demande de résultats économiques, sociaux. Et donc là, on a quand même des pragmatiques qui connaissent le terrain. Deuxièmement, on a une repolitisation en ce sens que se sont mis ensemble pour essayer de réformer le pays des gens qui partageaient la même idéologie, qui viennent de la gauche ou de la droite. En gros, c'est l'idéologie libérale, sociale, européenne. Ils vont essayer de pousser aussi loin qu'ils peuvent, en étant cohérents avec eux-mêmes. On voit tout de suite à l'Assemblée nationale d'où viendra l'opposition. On voit bien qu'il y a Mélenchon qui est positionné, que Marine Le Pen l'est, et qu'une partie de LR va l'être aussi beaucoup. Mais en tout cas, je pense que l'idée, il ne faut jamais oublier ce que dit Macron, il dit « je veux transformer la France ». Donc l'idée, c'est le pack d'experts, mais pas seulement, c'est-à-dire c'est des hommes de gauche et de droite qui partagent la même idéologie et qui vont essayer de pousser aussi loin qu'ils peuvent les réformes auxquelles ils croient, notamment la réforme du Code du Travail.
Mais je voudrais citer Henri Guénaud qui citait lui-même Alain Minc et parlait du cercle de la raison. C'est un peu ça l'idéologie, c'est le cercle de la raison, disait Henri Guénaud, de gauche et de droite, qui se retrouve aujourd'hui dans un gouvernement.
Il y a quelques années, il y a de ça une vingtaine d'années, on parlait de Delors-Balladurisme, vous savez, pour catégoriser ce gouvernement des gens raisonnables, de gauche et de droite, en rupture complète d'ailleurs quand on y réfléchit, avec la tendance qu'on a observée ces dernières années en Europe et même dans le monde avec l'élection de Trump, avec l'arrivée au pouvoir de personnalités qui incarnaient des mouvements qu'on pourrait qualifier de plus populistes ou portés sur le dégagisme pour emprunter au vocable de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce que vient de dire Françoise Fressoz, c'est aussi vrai à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas vraiment d'opposition. Quand vous avez 350 députés de votre propre parti qui ne doivent chacun, comme jamais dans l'histoire, leur élection qu'à vous et à vous seul. C'est sur l'étiquette En Marche qu'ils ont été élus, tous ces gens-là. Donc, quand vous avez cela et que vous y ajoutez, allez, en comptant large, une centaine ou au moins 70 supplétifs issus de la gauche ou issus de la droite qui se sont affichés comme étant ouverts au soutien au président de la République, vous avez effectivement toutes les cartes en main pour réussir. La rançon de cette situation, c'est que si vous échouez, un, on ne peut s'en prendre qu'à vous, et deux, ça veut dire que la seule possibilité pour les Français de se choisir une voie alternative, eh bien, ce sera de choisir des positions extrêmes.
Françoise ?
Juste pour compléter, quand je vois la composition du gouvernement, vous avez quand même deux personnalités, Collomb et Le Drian, qui ont représenté au niveau local cette espèce de ce qu'essaye de faire Macron au niveau national, c'est-à-dire rassembler gauche-droite pour essayer de résoudre concrètement les problèmes. La réussite de Collomb à Lyon, je pense qu'elle l'a beaucoup servi aussi à Emmanuel Macron pour imaginer cette team. C'est se dire, finalement, on se retrousse les manches et tous ensemble, on va y aller.
La parole à Antoine. Bonsoir.
Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Merci pour la qualité de vos émissions que j'écoute avec une fidélité qui serait presque coupable pour ne pas m'intéresser du tout aux autres ondes qui existent en France. Bref.
Merci, Antoine.
Je vous appelais simplement pour...
Pour les autres ondes, il y a le podcast.
Oui.
Bref, mais je suis d'accord, c'est pas le même plaisir.
Non, pour prolonger la réflexion de l'un de vos chroniqueurs ou chroniqueuses sur la légitimité politique des hommes dans ce nouveau gouvernement et la légitimité technique des femmes. Je me posais la question concernant Florence Parly, qui, comme vous l'aviez dit, a été secrétaire du budget sous le gouvernement, sous l'un des derniers gouvernements Jospin, je crois, alors que Laurent Fabius était ministre de l'économie et des finances. Puis ensuite, a pantouflé, je crois, à Air France, puis plus récemment à la SNCF. Moi qui cherche du boulot depuis un peu plus d'un an, qui ai des compétences, quelles qu'elles soient, une formation supérieure, on va dire, au standard, même si elle est proche des gens qui gouvernent aujourd'hui, bref, j'ai fait mon service militaire et j'ai le sentiment d'avoir plus de compétences en matière d'armée que Florence Parly. Ma question, au-delà du trait d'humour, est-ce que vraiment on peut considérer que cette femme a la légitimité technique pour être ministre des armées?
Très bonne question, Antoine, qui se lance?
Alors, il faut pas forcément.
Antoine, c'est Frédéric Mettezo qui commence.
Il faut pas nécessairement avoir été militaire comme Pierre Messmer ou avoir fait son service militaire comme tant d'autres, dont votre serviteur, pour être compétent en matière de défense. Ça, c'est la première chose. En réalité, la vraie question, c'est est-ce que le ministre des armées, parce que c'est pas la ministre de la défense, le ministre des armées n'est pas une sorte de courroie de transmission de l'Élysée. Je m'explique. Quand on organisait,
sinon il y aurait Le Drian.
Sinon, il y aurait Le Drian. Avec un président qui peut frapper, qui peut lancer la foudre, qui va avoir à sa main la diplomatie, les grandes décisions militaires, est-ce qu'il a besoin d'une véritable experte militaire ou de quelqu'un qui va savoir mettre en œuvre et savoir transmettre les ordres venus d'en haut? Avec la ministre ou le ministre des armées, on revient en fait à un fonctionnement beaucoup plus traditionnel.
C'est vrai ce qu'on a pu lire, que Le Drian avait été sorti du ministère de la Défense pour le Quai d'Orsay parce que il était de fait trop puissant et aurait fait de l'ombre à Jupiter.
Mais il était de fait puissant parce qu'il n'était pas seulement ministre de la Défense, il était aussi l'autre ministre des Affaires étrangères. Il y avait eu une espèce de partage du monde entre lui et Laurent Fabius au début du quinquennat, c'est-à-dire que Jean-Yves Le Drian, il s'occupait de l'Afrique, il s'occupait des monarchies du Golfe et il s'occupait des ventes d'armes. Et les ventes d'armes, c'est aussi une forme de diplomatie par elle-même. Donc, il était effectivement une sorte d'État dans l'État, puisqu'il était le patron des militaires, il était aussi
chef de guerre,
moitié ministre des Affaires étrangères, et en plus, c'était un fidèle parmi les fidèles du président de la République, et les deux se comprenaient parfaitement.
Et il ramenait des contrats à moisson.
Ça, c'est Françoise Bressot.
Le Drian, il va rester comme l'homme qui aura vraiment
remporté les rafales.
Et Dieu sait que c'était pas gagné.
De toute manière, le vrai ministre de la Défense s'appelle Emmanuel Macron.
Voilà.
Faut pas se leurrer. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut se demander vraiment quel sera le rôle d'Edouard Philippe, qui va quand même être très esselé au sein de ce gouvernement.
Moi, sur le premier.
20 secondes, Gaël.
Sur le premier gouvernement, c'était le point d'interrogation que j'avais. Ce choix, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, de pas garder Jean-Yves Le Drian à la Défense, quand vous êtes assez novice en politique comme l'est Emmanuel Macron malgré tout, et que vous avez un gouvernement dans lequel il n'y a pas beaucoup de têtes d'affiche, si vous avez un ministre qui a le mérite d'être reconnu à peu près par tout le monde comme étant compétent, c'est étrange de le garder pour le mettre sur un autre ministère que celui sur lequel il avait fait ses preuves, surtout en période d'état d'urgence, d'état de guerre, etc.
Merci à tous les quatre, Frédéric Mettezo, Cyril Graziani de France Inter, Françoise Fressos du Monde, Gaël Slimane, Odoxa, le journal à suivre.